à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.
Chers auditeurs, salam alaikum. Reprenons la méthode de Jésus pour former ses disciples. Au cœur de la troisième lumière de cette initiation, nous arrivons à la pureté d'intention. Un métal est déclaré pur lorsqu'il n'y a pas de mélange à un autre élément. Ainsi, l'or et l'argent sont purs lorsqu'ils ne contiennent aucun alliage. Par exemple, un diamant pur a beaucoup plus de valeur que 1000 impurs. La pureté est considérée comme la qualité par excellence. La pureté d'intention consiste à faire les choses avec une seule intention et par motivation évangélique. Par conséquent, l'impureté consistera à mélanger nos actions apostoliques avec nos intérêts ou avantages personnels. Pour mieux comprendre, voyons quelques exemples de contamination de nos motivations. Parfois, nous réalisons un important travail apostolique, mais notre intention ultime est d'être considéré par les autres. Aussi, nous nous décourageons lorsqu'ils ne nous reconnaissent plus. Ou encore, nous nous efforçons d'accomplir le devoir et réaliser les commandements, mais dans le but de gagner une compétence sur les autres dirigeants. Nous cherchons d'abord à paraître devant les autres ou à les dominer, au lieu d'accomplir la volonté de Dieu. Ou encore, il y a des gens qui travaillent avec les pauvres, car cela leur donne un prestige apostolique. Mais au fond, ils n'aiment pas du tout les pauvres. Au lieu de les servir, ils se servent d'eux pour alimenter le culte de leur personne. Une des impuretés les plus ruineuses est de servir le Seigneur en attendant en retour une récompense de type matériel. Si les Juifs suivaient le Seigneur pour le pain qu'il leur offrait, aujourd'hui d'autres le suivent pour ce qui leur permet d'acheter le pain. C'est la plus grande disgrâce dans laquelle puisse tomber un prêtre ou tout consacré. La liste est longue, aussi longue et différente que les personnes sont diverses. C'est pour cela qu'il est essentiel de revoir les intentions secondes qui nous animent. Dans ce que nous entreprenons. Parfois, ce sont même les intentions premières, mais recouvertes de zèle apostolique, service des autres ou accomplissement de la volonté divine. Nous devons revoir non pas ce que nous faisons, mais bien plus, plutôt ce qui motive nos actes. C'est pour cela que Jésus s'attaquait au formalisme des pharisiens, qui agissaient toujours bien et accomplissaient merveilleusement la loi tout entière, mais avec des motivations impures. Ils jeûnaient en accord avec la loi, mais ils avaient le visage triste pour que tous se rendent compte de leur sacrifice. Ils faisaient de grandes prières, mais leur regard n'était pas plongé en Dieu. Ils ne voulaient qu'être reconnus par les hommes. Ou encore, ils voulaient se faire connaître par leur dévotion pour que tout le monde parle bien d'eux. Le plus important n'est pas ce que nous réalisons, mais pourquoi et pour qui nous le faisons. Notre pureté d'intention est ce qui détermine la valeur de nos actions. Quelle est l'intention qui devrait motiver nos actions? Qu'est-ce qui doit nous motiver pour agir? Saint Ignace de Loyola, maître de vie spirituelle, résumait la pureté d'intention en une phrase latine: Ad majorem Dei gloriam, ce qui signifie tout pour la plus grande gloire de Dieu. C'est la plus pure de toutes les intentions. La motivation qui doit définir notre action consiste à faire seulement ce qui donne la gloire à Dieu, indépendamment de notre reconnaissance ou réputation ou récompenses humaines et même succès missionnaire. La pureté d'intention oblige à renoncer à toute autre motivation qui ne serait pas glorifier Dieu. Naturellement, cela implique le renoncement conscient et effectif à tout avantage personnel. Nos motivations doivent être purifiées et les intentions secondes disparaître. L'or et l'argent passent par un grand processus de purification. Les diamants ne peuvent être purifiés. Dans notre cas, cela signifie qu'il y a des domaines de notre vie dans lesquels nous pouvons faire quelque chose pour être purifiés. Mais il y en a d'autres qui ne dépendent pas de nous, mais uniquement de l'action sanctifiante de l'Esprit-Saint. Nous sommes libres d'accepter ou de refuser que le Seigneur nous lave les pieds, mais nous ne pouvons rien faire pour qu'il nous lave les mains et la tête. Ceci dépend seulement et uniquement de lui et de son plan sur nous. Ici, nous devons savoir qu'il ne s'agit pas de seulement refaire la façade extérieure, mais que c'est un travail qui va au plus intime de notre être. À quoi cela servirait-il de peindre en blanc le sépulcre si, à l'intérieur, la corruption continue? L'hypocrisie consisterait justement à vouloir donner l'apparence de juste, alors qu'en réalité, nous n'avons nettoyé que l'extérieur de la coupe et pas l'intérieur. Le Seigneur nous accepte avec notre impureté, mais ce qu'il n'acceptera jamais, c'est notre hypocrisie. C'est ce qu'il reprochera toujours aux pharisiens qui se donnaient des allures de juste devant les hommes. Le Seigneur nous accepte et nous aime avec nos erreurs, mais ce qu'il vomit, c'est la duplicité du cœur. Il n'a jamais parlé aux publicains ni aux prostituées aussi durement qu'aux pharisiens hypocrites qui agissent avec un cœur double. Les purs de cœur se sont vus attribuer la plus belle béatitude. Je cite « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. Maintenant, voyons quelques-unes des plus fréquentes formes de purification de la part de Dieu. En premier, la persécution du monde. Le moyen privilégié pour nous purifier est la persécution. À travers la critique, la moquerie, l'incompréhension, la destitution, jusqu'à l'excommunication, Dieu nous libère de toute insécurité pour que nous ne dépendions plus que de lui. Certains, sans doute aveugles, attribuent à Satan tout conflit ou toute adversité, ne se rendant pas compte que ces problèmes forment le disciple qui suit la trace de son maître, Jésus-Christ, l'agneau immolé. Un jour, Pierre posa à Jésus cette double question pour laquelle il attendait logiquement une double réponse. « Quelle sera notre récompense pour avoir tout quitté et pour t'avoir suivi ?» Jésus répondit « Vous qui avez tout quitté, vous recevrez le centuple. Vous qui m'avez suivi, vous souffrirez les persécutions. » Marc 10, 29, 30. Si nous avons laissé quelque chose pour le Seigneur, il nous promet de le multiplier 100 fois. Nous attendons tous que le Seigneur accomplisse cette promesse. Mais le point le plus important de la réponse de Jésus réside dans la seconde partie. Je cite « Vous m'avez suivi, vous souffrirez des persécutions ». La persécution est un signe distinctif des fidèles du Maître de Nazareth. Si nous imitons son style de vie, nous devons nous attendre à ce qu'on nous traite de la même manière que lui. La persécution est le milieu normal du chrétien et le cadre de vie de tout disciple de Jésus. Ainsi, comme l'or est épuré au feu, la persécution est le four où est forgé le disciple de Jésus. Prions.
Ils ont franchi la barrière les longs couteaux dans la nuit. Ils ont fait brûler la poussière, les pierres de l'oued sans un cri. Ils ont ouvert le monastère, brisé le miroir de la paix. Ribat et Salam, ô mon frère, ils ont pris sept fils de la vallée. Le vent se lève, imagine les mois de Tibérie. Quelque chose a pris racine, les mois de Tibérie. Oh Dieu, comme il pleure des rivières dans les yeux de ton Algérie. La charia en bandoulière et la mort au fond du maquis. Moudjahidine, la grande guerre, la guerre sainte et sans merci. C'est au-dedans de nous, mon frère, qu'elle se mène jusqu'à la vie. Avec ou sans carabine, les moines de Tibérine. Jamais l'amour ne s'assassine, les moines de Tibérine. Les moines de Tibérine, jamais l'amour ne s'assassine, les moines de Tibérine. Le vent se lève, imagine les moines de Tibérine. Les moines de Tibérine. Les moines de Tibérine.
Christian. Luc. Christophe. Bruno. Michel. Célestin, Paul.
Je cite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. Jean 15, 20. Jésus explique pourquoi cette persécution est logique. Je cite, si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison le monde vous hait. Jean 15, 19. Le véritable disciple du Christ, parce qu'il est la lumière au milieu des ténèbres qui dénonce les œuvres du mal, dérange les structures injustes. Pour cela, il doit être chassé et déclaré ennemi de tout système anti-évangélique. Ainsi, nous, les disciples de Jésus, ne devons-nous pas nous demander pourquoi on nous persécute, mais bien plutôt pourquoi on ne nous persécute pas. Le sel a-t-il perdu sa saveur, ou bien a-t-on étouffé la voix prophétique qui dénonce ? Ce qui est sûr est qu'il existe actuellement une véritable persécution contre les valeurs évangéliques, les principes de vérité, le respect de la vie et les droits les plus fondamentaux de la personne humaine. Si nous ne sommes pas persécutés, c'est que nous sommes les persécuteurs. pour la simple raison que qui n'est pas avec le Christ est contre lui. On ne peut pas rester neutre. Si nous ne sommes pas une partie de la solution, c'est que nous sommes une grande partie du problème. La persécution est le four où l'on purifie les disciples de Jésus. Si on ne met pas la brique au feu pour la cuire, elle ne pourra jamais servir pour la construction. Ici, comme dans toute la vie spirituelle, on applique le principe du grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit. Pour cette raison, saint Paul affirme que nos ennemis nous bénissent en nous offrant précisément la purification dont nous avons besoin. Romains 11, 28. Une deuxième forme de purification est l'échec. Nous nous trompons en pensant que notre succès est synonyme d'instauration du royaume. Il est évident que Dieu ne veut pas notre échec, et encore moins la destruction de notre personnalité, vivant avec un constant complexe d'infériorité ou d'inutilité. Néanmoins, c'est parfois un moyen de nous faire croître dans la vie, dans l'esprit, et de le servir d'une manière plus désintéressée. L'échec nous permet de faire halte sur le chemin et de rectifier le sentier que nous suivons. Il n'est pas une œuvre importante dans le monde qui ne soit née d'un échec. La nouvelle Jérusalem est construite sur les ruines de celle qui fut détruite. Par ailleurs, l'échec nous offre la bonne occasion de montrer que nous travaillons non pour les fruits, mais pour la mission qu'on nous a commandée. Dans le plan de Dieu, certains sont appelés à semer, d'autres à arroser et d'autres encore à cueillir le fruit. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il ne leur a pas dit « Allez et convertissez tout le monde », mais « Allez et proclamez la bonne nouvelle à toute la création ». Nous devons être fidèles à cette parole et à ce service. Autre moyen de purification, les problèmes. À certains moments, on justifie l'abandon d'un projet par l'argument suivant. Il y a eu tant de problèmes et de difficultés, tant d'oppositions ou d'obstacles, que j'en ai déduit que ce que je faisais n'entrait pas dans le plan de Dieu et j'ai tout abandonné. Ce critère n'est pas valable dans l'œuvre de Dieu. De plus, nous pourrions même dire qu'il est anti-évangélique. Il suffit pour cela de considérer que si Jésus-Christ avait pensé de cette manière, jamais il n'aurait réalisé le mystère de notre rédemption. Jésus ne nous a jamais trompés en nous promettant que tout serait facile et simple. Au contraire, il nous a parlé très clairement, affirmant que nous irions comme des brebis au milieu des loups. Il ne nous a jamais dit que les choses nous seraient facilitées, mais que nous aurions un pouvoir spécial pour vaincre les obstacles et surmonter les difficultés. Un jour, Paul vécut un tel problème qu'il le nomma l'écharde dans la chair. Il lutta, et comme il ne pouvait le vaincre, il demanda au Seigneur de le libérer d'une telle difficulté. Il espérait que le Seigneur allait répondre favorablement à sa demande. Aussi fut-il surpris quand il entendit le Seigneur lui dire « Paul, ma grâce te suffit ». Le Seigneur ne lui a pas supprimé la difficulté, mais lui a donné une grâce particulière pour vivre avec ce problème. La sagesse pour lutter contre et une force qu'il n'avait pas auparavant. Paul sortit gagnant avec une puissance qu'il n'avait pas avant. Paul était plus fort avec son écharde. Le Seigneur ne nous évite pas les problèmes, mais il nous donne la garantie de la victoire. Et plus encore, le vrai disciple doit se charger de la croix de Jésus, mais toujours dans l'espérance de la résurrection. La Pâque de Jésus nous montre parfaitement le seul chemin qui conduit à la gloire. Pour arriver à la résurrection, il faut passer par le calvaire. Celui qui a cette claire vision ne craint pas les problèmes, ni ne se laisse dépasser par les difficultés, mais se soutient par la promesse du Seigneur, qui dit, je le cite, « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Les problèmes et les difficultés purifient nos intentions, car ils nous donnent l'occasion de montrer au Seigneur que nous travaillons non pour des avantages personnels, mais seulement parce qu'il nous a séduits et que nous nous sommes laissés séduire. Ce feu d'amour domine tout autre problème. Les difficultés nous purifient en tant qu'elles nous font non seulement savoir, mais vivre intensément que l'œuvre n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu. On a conscience que les problèmes nous dépassent, mais en aucune manière ils ne dominent la puissance de Dieu. C'est la clé de l'espérance. Le Seigneur ne nous évite pas la lutte, mais il nous donne une armure. Pour sortir victorieux, la vraie foi se mesure dans l'adversité. Il nous suffit de trois exemples. Souvenez-vous des trois jeunes gens dans la fournaise ardente qui chantent les louanges du Dieu d'Israël, ou encore les Maccabées qui affirment que si Dieu ne les sauve pas, ils croiront encore plus. Et enfin Habacuc qui au sein de la crise s'écrie « Car le figuier ne bourgeonnera plus, mais moi, je me réjouirai en Adonai, j'exulterai en Dieu mon Sauveur. » Mes chers amis libanais et autres amis, essayez de travailler à la paix au Liban en exposant le Liban et votre cœur devant Jésus vivant au Saint-Sacrement. C'est là le lieu où l'avenir du Liban et du monde se joue. Aidez le Seigneur. Sainte semaine.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière Abana au Liban.